Le Festival Cinéma d'Afrique, c'est à Montbenon et en direct sur Radio Django.
Deuxième jour de ce festival, effectivement, ici sur l'esplanade de Montbenon à 17h15. On passe au film des séries Highlight, Daniel. Retour sur un film réaliste, percutant et engagé, Le Loup d'Or de Balol. Un film primé par le FESPACO 2019, récompensé à l'unanimité par le jury. Ce film propose de plonger au cœur d'une carrière de granit située à Ouagadougou, la capitale évidemment du Burkina Faso. Un documentaire poignant sur les conditions de travail de ces esclaves modernes, hommes, femmes et enfants, qui cassent à main nue des pierres de l'aube au coucher du soleil pour nourrir donc évidemment leur famille. Daniel, c'est toi qui as regardé ce film. Ce film entend montrer l'invisible, on pourra dire.
Vraiment l'invisible, montrer le quotidien des personnes qui travaillent dans cette carrière, pourtant située au cœur de la ville, mais aussi leur mobilisation pour améliorer leurs conditions de travail grâce à la création d'une association et souligner l'hypocrisie d'une société qui refuse de les voir.
Mais alors, est-ce que ce film aurait un caractère politique ?
Je ne pense pas. Toutefois, nous pourrons en reparler avec notre invité. Pour ma part, c'est plutôt un film humaniste, engagé, qui entend montrer une population en marge, mais digne, et qui souffre en silence, et surtout mène un combat de fond par instinct de survie. Loin de jeter un regard misérabiliste sur ces hommes, ces femmes et ces enfants, ce documentaire donne à voir un tableau profondément humain qui nous renvoie à notre condition d'homme et nous rappelle que le devenir repose sur nos rêves.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Chloé Aïcha Borro. Bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir, merci à vous de nous accueillir ici. Vous êtes originaire du Burkina Faso, vous êtes installée en France depuis 2010, vous êtes écrivaine et réalisatrice de films documentaires, et ces œuvres s'inspirent du réel, de la vie des gens et des paradoxes qui traversent nos sociétés. Tout a commencé par un documentaire sur les champs expérimentaux d'OGM à Boni, au Burkina Faso, et depuis, vous ne lâchez plus votre caméra, ni votre plume d'ailleurs. Le cinéma pour vous correspond à un besoin d'exprimer quelque chose qui ne va pas en soi. Installé donc en France, comme je le disais, depuis 2010, l'Afrique n'est jamais vraiment très loin. Vous disiez lors d'une interview être capable de vous détacher de votre histoire. En quoi votre histoire et celle de la société africaine au sein de laquelle vous avez grandi mûrit et constitue l'étoffe de vos films, Chloé Aïcha Borro?
Merci. Avant de répondre, il faut que je signale que avant le film sur les champs de coton, j'ai fait d'abord Farafinko.
Ah oui.
Et sur les traces de Salimata, voilà. Mais effectivement, je suis originaire d'Afrique, je suis Mandingue. Mandingue, c'est une ethnie, c'est une communauté qu'on retrouve sur 7 pays d'Afrique de l'Ouest, et je suis très fortement liée à cette culture-là, et je ne raconte pas que des histoires mandingues, évidemment, et comme tout cinéaste, j'espère pouvoir prétendre à l'universalité quand je raconte des histoires, et j'espère que tout le monde peut s'y reconnaître. Mais ces histoires sont évidemment empreintes aussi de qui je suis, de la culture dans laquelle j'ai été forgée, de cet héritage ontologique que quelque part on retrouve et on ressent dans mes films, j'espère en tout cas. Je montre beaucoup le Burkina dans mes films parce que c'est le terrain que je maîtrise le plus, tout simplement. C'est pas que je pense qu'il y a des bonnes histoires que là, ou que les histoires y sont plus fortes, c'est tout simplement que c'est le terrain que je maîtrise, et on a besoin de connaître un terrain, de le maîtriser, je crois, pour pouvoir aller l'explorer et raconter des histoires.
Parlant d'exploration, on sait que vous avez grandi à côté de cette carrière qui fait l'objet de votre film Loup d'Or de Balolé. Mais est-ce que, enfant, vous connaissiez l'existence de ce trou ?
Non, justement, c'est là où le cinéma, tout d'un coup, prend toute une puissance extraordinaire. C'est-à-dire que il existe à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso, encore aujourd'hui, cet endroit ignoré même des riverains qui habitent dans le quartier. Une sorte de ville, de sous-ville dans la ville, puisque c'est un trou béant où 2500 personnes résident, où il y a tout. C'est vraiment une ville dans la ville. Il y a la mosquée, il y a l'église, il y a le marché. On est là, on travaille là jusqu'à mourir là. On est enterré là et on ignore l'existence de cet endroit. Et effectivement, moi, j'ai fait mon école primaire à 1,5 km peut-être à vol d'oiseau de cet endroit, et j'ignorais que cet endroit pouvait exister de nos jours et au cœur d'une capitale.
Au cœur de la ville.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette carrière ? qui est-ce qui vous en a parlé, en d'autres mots ?
Je suis tombée dessus vraiment par hasard et je considère que c'est vraiment un cadeau de la vie et un cadeau de mon métier. En fait,
donc c'est en vous promenant au sein de votre ville, au sein de la capitale ?
Non, j'étais en tournage pour un précédent film, le film sur le coton justement.
D'accord.
Et parce qu'en fait, cet endroit, les gens sont dans ce trou béant et ils font remonter du granit. Et ils le stockent en monticule de cailloux devant la carrière, ce qui fait une séparation de fait entre le trou et le reste de la ville. Et moi, j'étais venue pour filmer ces cailloux-là, tout simplement, croyant que les cailloux venaient d'ailleurs. Et il y a un jeune qui vient me voir et qui me dit, si tu donnes la pièce, tu pourras passer de l'autre côté et filmer le trou. Et là, je lui demande, mais quel trou ? Et là, il me regarde comme si voilà, l'air de dire, mais tu sors d'où, toi ? Il me fait, mais tu penses que ça vient d'où, les cailloux ? OK, donc j'étais avec mon équipe de tournage, équipe française, sur un précédent film. Donc je passe un petit billet, 1000 francs, ça correspond à 2 euros plus ou moins, et on passe derrière.
Et on vous laisse passer dans la carrière.
Voilà, et d'accord. Du coup, on découvre cette sorte de faille spatio-temporelle. C'est une ville dans la ville. C'est vraiment une faille, quoi. C'est vraiment, t'as un trou et t'as l'impression de voyager 200 ans, 500 ans en arrière, et tout est très différent. Les couleurs, tout parce que c'est de la roche et qu'il y a ce chrome très particulier, et puis il y a de la latérite, et puis comme c'est dans un trou, les couleurs se lèvent, les poussières se lèvent et se mélangent avec les fumerolles parce qu'ils brûlent plusieurs pneus comme ça à longueur de journée pour fragiliser la roche, et tout se mélange et ça donne comme ça une sorte d'univers très particulier, et en même temps c'est une sorte de hors-champ social. C'est une claque dans la figure quand on découvre cet endroit, quoi, qu'on soit burkinabé ou pas, en fait.
Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que, en regardant le film, lors du premier plan, en fait, les premiers plans commencent avec Adama, qui s'exclame « Que viens-tu ? Que venez-vous chercher ici dans ma carrière ? Que voulez-vous que je vous dise ? Ici, il n'y a rien à montrer. » Mais comment vous avez choisi de mettre en scène, de raconter la vie de ces gens dans la carrière ?
Il faut savoir qu'à la base, quand moi je découvre cet endroit, je me dis tout de suite, je veux pas de personnage. Je me dis, je veux traiter le trou comme un personnage à part entière. Je ne me dis pas qu'il y a une association qui se crée. Je ne me dis pas que je vais trouver des personnages pour les suivre. Je me dis, mais cet endroit en lui-même, pour moi, c'est un personnage, comme une sorte de gouffre, une sorte de boîte géante qui engloutit tout, qui engloutit le labeur des gens, qui engloutit le fruit de leur travail, puisqu'ils ne peuvent même pas vendre le fruit, qui engloutit jusqu'à la reconnaissance de leur existence. Pour moi, ce trou est un personnage à part entière et je viens avec l'idée de le traiter tel quel. Et puis, ces gens-là, il y a Adama qui sort de nulle part, qui me prend à partie un jour en me disant « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Là, je n'ai pas encore les caméras, mais il me dit « C'est quoi l'intérêt pour toi et tes blancs de venir là pour nous filmer ?»
Et il faut expliquer qu'Adama vit dans cette carrière depuis 26 ans.
Depuis 26
il
ans.
Il a deux complètement abîmés.
Voilà.
Mais pour revenir, on a malheureusement peu de temps, donc je vais vous stresser un petit peu. Mais moi, ce que j'ai trouvé si fort intéressant, c'est que toute l'histoire se construit en fait des deux jumeaux, Ousseini et Alassane. Pourquoi est-ce que vous avez choisi en fait de relater l'histoire de ces deux jeunes garçons qui finalement, eux, ont peut-être d'autres visions de leur avenir ?
Je crois que ça aussi, ça s'est imposé. J'ai découvert ces deux jumeaux-là, mais je ne le traite pas finalement dans le film, mais parce qu'ils avaient une sorte de symbiose, c'est-à-dire que tu leur posais une question, et je vous promets, c'est difficile à croire, ils répondaient exactement la même phrase, les mêmes mots au même moment. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable ce truc. Et finalement, on ne le voit pas ça dans le film.
Mais c'est eux qui vous ont dit...
Ouais.
Où as-tu vu que l'on donne la parole à des gens pour les mater ?
Oui,
ça m'a fait
oui.
éclater de rire.
Bah, c'est vrai que ce film pose aussi la question du filmeur filmé. Et ça, je ne l'ai pas choisi, cette approche-là. Elle est venue comme ça parce que ces gens-là sont comme ça aussi. Il n'y a rien de péjoratif dans ces gens-là, mais parce qu'ils ont cette singularité d'âme et cette profondeur d'âme. Adama, c'est un conteur génial qui a une sorte d'intelligence comme ça de la caméra et qui vient et c'est lui qui te pose les questions. Tout au long du film, c'est beaucoup lui qui me pose les questions. Et c'est vrai que les jumeaux amènent aussi ce truc en disant, où a-t-on vu qu'on fait parler les gens pour les mater ? Mais ce qui m'a aussi intéressé en montrant les jumeaux, c'est que tout d'un coup, c'est-à-dire que des fois, moi, j'ai vu des reportages, moi, je ne fais pas du reportage, je fais du documentaire, mais quand même, des reportages ou des documentaires où on montre des enfants qui travaillent dans les pays pauvres et on dit le travail des enfants et tu as l'impression que les enfants sont réduits à ce statut-là, c'est-à-dire c'est un enfant qui travaille. Alors que c'est toujours beaucoup plus complexe. Un enfant qui travaille, je ne suis pas pour le travail des enfants, entendons-nous bien. Mais quand on montre le travail des enfants et que ça se résume à ça et qu'on voit que par ce prisme-là, ça devient un enfant qui travaille. Alors que c'est beaucoup plus complexe parce que l'enfant qui travaille, c'est aussi, comme on voit dans le film, c'est lui qui dit écoute, je vais casser lentement, ça me fera toujours ça de moins à casser, qui prend en partie l'équipe de tournage, qui prend en partie ses parents. C'est toujours plus complexe que juste un enfant travailleur. C'est cette complexion humaine qu'on n'a pas toujours,
mais qui est très bien mise en scène.
Ouais, que j'avais envie aussi de montrer. Ils ont aussi de la rébellion en eux, ils ont aussi des rêves, ils ont aussi plein d'autres choses. Et justement, montrer que le côté travailleur, ça réduit à une forme de misérabilisme. Regardez, les pauvres, ils travaillent.
Ils ont des rêves.
Ils ont plein d'autres choses. Et ils ont aussi, je ne sais pas moi, ils ont du répondant. Quand ils ne sont pas contents, ils savent le dire aussi.
Mais vous racontez lors d'une interview que le réel, justement, est davantage ce que les gens ont envie de montrer eux-mêmes que les choix du cinéaste. Et ce que vous venez nous expliquer montre bien que finalement, on apprend en fait de ces personnes en les filmant, mais en les laissant venir à la caméra. Qu'est-ce que vous retenez en fait de cette expérience? Que vous ont appris les gens pendant tout le tournage?
Moi, je dirais beaucoup. En fait, je crois qu'avant Le Loup d'or de Balolé, qui est mon troisième long métrage, avant, je pouvais avoir, quand j'étais en montage, je pouvais avoir une sorte de problème existentiel comme ça par rapport au fait, pas au fait de filmer les gens, parce qu'ils savent qu'on les filme, ils sont d'accord pour être filmés. Mais en fait, quand on prend les gens, une personne va dire une phrase, ça a duré une seconde de sa vie. Elle a oublié cette phrase, elle est passée à autre chose depuis longtemps. Elle se rappelle à peine que ce moment a existé. Et nous, on prend cet instant, et puis plein d'autres instants, évidemment. Et on rentre chez nous, dans notre studio ou dans notre salon. Moi, je fais du pré-montage avant qu'un monteur passe. Et on s'enferme avec, et dans notre névrose, on va le triturer, le détriturer, le placer là,
le
mais non, c'est pas ici. Ouais, le reconstruire, lui donner un relief, une autre dimension. Et puis, on est là avec. Et cette personne, c'est pas qu'elle sait pas, elle sait qu'il y a un film, mais quelque part, ça lui échappe.
Mais finalement, vous, dans votre mission en tant que cinéaste engagé, c'est de prendre en fait le côté brut de ce que vous avez pu en fait filmer sans vouloir le transformer. Ça, j'ai trouvé très intéressant dans votre démarche.
Il y a le souci de ne pas transformer, mais surtout le souci de laisser celui que je filme définir la distance que j'ai avec lui, définir le ton, définir le rythme et définir le propos. Ce propos, par exemple, de Adama, qui est celui qui pose les questions et qui donne la direction, c'est vraiment Adama qui la donne. Moi, je me laisse porter presque. Parce qu'on pourrait raconter plein d'autres choses sur le même truc. Mais les laisser, eux, raconter, croire suffisamment que les gens qu'on a décidé de montrer, d'écouter, sont suffisamment beaux et forts et complets pour eux donner la direction. Moi, c'est quelque chose auquel je crois fortement.
Et qui était fondamental dans votre démarche.
Voilà.
De manière très subtile, vous faites un lien avec les événements qui se sont passés au Burkina Faso en 2014. Qu'est-ce que ce film a de politique et quel a eu l'effet de cette crise sur les travailleurs de la mine?
Alors, quand il y a eu justement cette crise qui fut une insurrection au Burkina Faso en 2014, j'espère qu'on s'en souvient, beaucoup d'analystes ont posé la question à savoir est-ce que c'était juste une révolte, c'est-à-dire les gens étaient tellement dos au mur, ils sont sortis juste 5 minutes, ils ont retiré un bout de pain, ils sont rentrés chez eux, ou est-ce que c'était une révolution, auquel cas ça impliquait des changements de mentalité, un changement profond, quoi. Et là, tout d'un coup, j'avais la réponse à cette question parce que ils ont participé à l'insurrection, l'histoire les a oubliés, mais eux, ils sont revenus dans leur trou en se disant « plus rien ne sera comme avant, on va monter une association, on va réclamer des droits et tout ça ». Et je ne sais plus c'était quoi votre question.
Alors, l'idée, c'était de savoir dans quelle mesure est-ce que ça a incité les politiques à réagir.
Du coup, tout d'un coup, ils existaient
ça,
et les politiques
question.
Étaient obligés de voir qu'ils existaient.
D'accord, voilà. Donc il y a eu ils un effet revendiquer.
Ah oui. Oui, on est reparti, il y a une projection, ça c'est le moment le plus fort de... Ça fait 10 ans que je fais du cinéma documentaire. On a projeté le film dans le trou, pour les gens du trou, mais aussi pour les gens du quartier, en présence du président de l'Union européenne, Ouaga, Burkina Faso plutôt, et d'autres dirigeants. C'était un moment très très fort.
Comment est-ce qu'ils l'ont exprimé, la ville, avec votre œil dans le trou?
Comment ils ont
ressenti, comment ils vous l'ont exprimé, cette sensation qu'ils ont eue de voir vos images du trou?
Alors, il faut savoir que déjà au début, moi, je me suis mise de côté parce que j'avais les larmes, c'était très émouvant. Beaucoup de gens là-bas, on s'en doute, n'ont pas de télé, n'ont jamais vu de film de leur vie. Je ne dis pas n'ont pas vu d'écran, hein, parce qu'ils passent devant des endroits où il y a des écrans. Mais voir un film en entier comme ça, et ce film parlait d'eux, et c'était eux à l'intérieur qui parlaient. Donc, c'était très fort pour eux. Ils s'étaient fait beau, ils étaient venus. Mais en fait, je ne sais même pas si l'histoire, ils ont réussi vraiment à l'entendre jusqu'au bout parce que chaque petit détail les interpellait. Ils rigolaient à tout. Ils
ont dû voir plusieurs fois.
Oui, nous, on l'a montré une fois. On leur a laissé les DVD. Mais ils se tenaient comme ça. C'était un moment très fort pour eux. Tout d'un coup,
ça vous a fait des frissons.
Oui, ça m'a légitimé dans mon travail, quoi.
Un dernier mot. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Ablacé? Depuis le tournage, comment va-t-il?
Alors, Ablassé a trouvé la santé, mais peut-être pas complètement, parce qu'on lui a dit que de toute façon, il ne fallait plus qu'il retourne dans la carrière, parce que ses poumons ne supporteraient pas de nouveau. Mais surtout, je ne sais pas comment il faut le prendre, ça. Ablassé s'est fait proposer du travail en dehors de la carrière, parce qu'il s'est fait remarquer en créant l'association. Ça, et tout d'un coup, il a eu un travail en dehors. Et je me suis dit, c'est bien, moi, je suis contente pour lui. Mais en même temps, tu te dis, parce qu'il crée l'association, il se fait repérer et on lui donne du travail en dehors. Et du coup, que devient l'association ? Effectivement, l'association ne tient beaucoup moins. Et tu te dis, tu as l'impression que... Enfin, moi, le sentiment que j'ai eu à un moment donné, c'est... Le collectif l'emporte rarement, quoi. Ouais.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Chloé Chabereau.
Merci beaucoup à vous.
L'Afrique reste votre terrain de prédilection hein, pour écrire, réaliser, produire vos films. Revenir à la maison pour interroger cette vie et cette société burkinabé à l'origine de votre histoire, un patrimoine que vous ne cessez d'explorer sous toutes ses coutures, Daniel.
Absolument. Pour notre invité, le cinéma lui permet de décrypter une société africaine qui fait partie de son patrimoine génétique, spirituel et intellectuel. C'est son credo et sa force reste de filmer le réel, entendu comme ce que les gens ont envie de montrer d'eux-mêmes et non les choix des cinéastes. D'après Aïcha Chloé-Borot, la caméra change l'attitude et ouvre la parole. Les personnages se mettent en scène eux-mêmes et il ne reste plus qu'à les filmer dans tout leur éclat. Il serait plaisant que le prochain film, en fait, soit sur les politiques et de, en fait, d'observer leur réaction à l'endroit du loup d'or de Balolé.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben, c'est une bonne perspective, faut voir.
Reste plus qu'à faire. Bon, très bien, merci beaucoup à vous Chloé Aïcha Borot. Vous dire que votre film sera diffusé ce soir à 20h30 au Salon Bleu, ici à Montbenon, avec vous évidemment, pour le petit mot d'accueil.
J'ai cette chance, ouais.
Et puis demain aussi.
Et puis demain aussi.
Voilà, 12h30, toujours au Salon Bleu, pour la présentation de votre film Le Loup d'Or de Balolé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Une toute belle soirée, une bonne suite de festival pour vous. Nous, on va rester en direction, évidemment, du Burkina Faso avec l'homme du peuple. C'est le surnom de Moussa Joseph Salem Béré, dit Salambo, si vous ne le saviez pas. Voilà, et c'est ce qu'on écoute tout de suite sur Radio Django en direct de ce festival Cinéma d'Afrique édition 2019. Kaito Adebayiri Anoko Yete mwene wela tuntuma Bayiri Anoko Mamke nga binya lirbobo na mamsuma ya wena Mamke nga komati lirbobo na mamsuma ya wena Mamta magumbo la kindu la mamia mwena ya yare tenga mamsuri malayana. Yare tenga mamsuri malayana. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, arbayiri anoko. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, arbayiri anoko. Yete mwene wela tontuma bayiri anoko Mamkusa bayidare mamke na melamlare Mamrabu yorare mamke na melamsamure Mamkusa tengare mamke na melamkinde yade tenga mamsuri para yate yade tenga mamsuri para yate La ilaha illallah Muhammad Rasulullah arbayiri anoko La ilaha illallah Muhammad Rasulullah arbayiri anoko
Yatenga Père des merveilles Soutiendra la place Nabakango Là reposent les hommes Le marché central de Ouibia Ramatoulaye la belle La grotte de Kananga Le marché de bétail de Yuba, l'hôtel de l'amitié,
Et c'est notre hommage ce soir à cet artiste Salambo Moussa Joseph Salem Béré qui nous a quittés le 27 février 2018 à l'âge de 74 ans après plus de 50 ans de carrière. Ce soir, nous lui rendions hommage avec cette chanson sur Radio Django.